Bonsoir. Femmes et enfants dans l'esclavage. Le sujet est vaste, mais il faut bien commencer. Tirer les fils du passé qui vient faufiler, ravauder, rapiécer et bâtir aujourd'hui. Je ne suis pas une historienne. Si j'ai été sollicitée pour cette conférence qui va à la rencontre des femmes et des enfants dans l'esclavage, c'est sans doute parce que je suis une écrivaine guadeloupéenne, descendante, il faut le dire, de maîtres et d'esclaves. Le maître Pinault, affranchissant en 1832 ses 5 enfants nés de sa relation avec son esclave Angélique, qu'il épousa en 1837, 10 jours avant de mourir. J'ai déjà écrit une vingtaine de romans et dans la plupart, les personnages principaux sont des femmes et des enfants. Certaines de ces femmes évoluent, naissent et meurent dans ces Antilles d'autrefois, d'autres contemporaines, dialoguent avec les femmes fantômes qui les interpellent et les hantent. Souvent, les temps se chevauchent dans ces récits, ces bouts de vie. Et toujours des enfants sont là, dans les jupes de ces femmes, mères et grand-mères, à quémander un peu d'amour, un brin de tendresse. Je rêve d'écrire un jour un roman dans lequel un homme tiendra le premier rôle, sera le personnage principal. Femmes et enfants dans l'esclavage. La plupart des créateurs et artistes, plasticiens, musiciens, poètes, écrivains du bassin caribéen, les plus anciens comme les plus jeunes, ont au moins une fois dans leur œuvre dû traverser les temps, remonter aux jours anciens de l'esclavage pour y puiser la force et s'emparer des matériaux nécessaires à la construction de leur œuvre. Aussi l'inspiration, tellement volatile, pour croiser le regard de ceux-là qui étaient nés de la terre Afrique, ceux-là qui avaient connu les fers et le fouet sur les habitations. Je pense d'abord à Aimé Césaire, au cahier du retour au pays, d'un retour au pays natal. Et j'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des farfouillis de vermine parmi les lassitudes. Oui, j'entends les abois d'une femme en gésine. Et je ne sais pas si elle va survivre à cet accouchement dans la cale du bateau. Et l'enfant qu'elle met au monde, est-ce qu'il va vivre? Aura-t-elle la force de lui donner son sein, le fourrer dans la petite bouche humide, tellement impatiente? Et seront-ils tous deux vivants au bout de la traversée, la mère et l'enfant? Les abois d'une femme en gésine. Un peu plus d'un siècle après l'abolition de 1848, lorsque Césaire écrivait son cahier, il voyait et entendait sans doute clairement toute cette humanité souffrante, dépossédée d'elle-même, vendue, achetée, traitée, pas mieux que du bétail, et qui allait dans l'entrepont, dans la cale, enchaînée, terrorisée. Et je me trouve aujourd'hui devant vous, au musée du Quai Branly, ce temple qui recèle en piles et en tasses des collections, objets d'un quotidien fané, fabuleuses œuvres d'art, créations surannées, intemporelles, de plomb, de plumes, de pierre, de papier, et qui rendent compte du génie humain et racontent aussi l'incroyable histoire coloniale de la France. Oui, tous les voyages des missionnaires, des explorateurs, des conquistadors, des découvreurs, tant de conquêtes, de batailles, tous ces trésors du monde tellement silencieux, derrière les vitrines, ces statues captives aux regards fixes qui se souviennent peut-être d'autres rivages, d'autres visages, et du sang versé, et des coups de fusil, et des larmes. Nous sommes en 2013, déjà au 21e siècle, comme Césaire jadis. Il suffit de tendre l'oreille pour percevoir ces sons-là, prendre le temps d'écouter ce murmure, ces voix mêlées, ces cris. J'entends de la cale monter. Hélas, ce présent de l'indicatif vaut pour tous les temps, hier, aujourd'hui, sûrement demain. Il dit l'humanité en tout lieu, en tout temps. Il dit l'épopée du genre humain. Il dit la noirceur des abîmes, la condition humaine dans toutes ses dimensions. Et ceux qui liront le cahier d'un retour au pays natal au XXIe siècle, si proche et si hypothétique à la fois, rediront les mots du poète et emploieront ce même présent de l'indicatif qui éveille les consciences et alerte et avertit que ce qui s'est passé en temps peut et va se reproduire, et se reproduit d'ailleurs à chaque instant sous d'autres latitudes, interprétées par d'autres personnages. Et il y a ceux qui brandissent des armes, des lois nouvelles, des décrets, des codes nouveaux. Il y a de nouveaux héros et les autres qui courbent les chines et subissent la loi. Et nos histoires présentes ne sont bien souvent que des redites, des plagiats, des rebonds de nos vieilles histoires. On dit que le monde, comme les écrivains, raconte toujours les mêmes histoires. Il y a chez les écrivains cet entêtement à porter une parole qui donne sens, qui investit le passé pour observer le présent et aborder l'avenir. Mais je voudrais, avant d'aller plus loin, en toute humilité, me poser aux côtés de Télumé Miracle, l'héroïne d'une autre femme de lettres guadeloupéenne, Simone Schwarzbart, qui elle aussi est sommée de prêter l'oreille, s'interroger sur ce passé d'esclavage, dénoncer cette abomination. J'entends les paroles, les éclats de rire de Mancia là-bas au milieu de ces bois. Et je pense à ce qu'il en est de l'injustice sur la terre et de nous autres en train de souffrir, de mourir silencieusement de l'esclavage après qu'il est fini, oublié. J'essaie toutes les nuits et je n'arrive pas à comprendre comment tout cela a pu commencer, comment tout cela a pu continuer, comment cela a pu durer encore dans notre âme tourmentée, indécise, en lambeaux, et qui sera notre dernière prison. Parfois mon cœur se fêle et je me demande si nous sommes des hommes, parce que si nous étions des hommes, on ne nous aurait pas traités ainsi. Peut-être, alors je me lève, j'allume ma lanterne de clair de lune et je regarde à travers les ténèbres du passé le marché où ils se tiennent, et je soulève la lanterne pour chercher le visage de mon ancêtre. Et tous les visages sont les mêmes, et ils sont tous miens. Et je continue à chercher, et je tourne autour d'eux jusqu'à ce qu'ils soient tous achetés, saignants, écartelés, seuls. Je promène ma lampe dans chaque coin d'ombre. Je fais le tour de ce singulier marché, et je vois que nous avons reçu comme un don du ciel d'avoir eu la tête plongée, maintenu dans l'eau trouble du mépris, de la cruauté et de la mesquinerie et de la délation. Mais je vois que nous ne nous sommes pas noyés, nous avons lutté pour naître, nous avons lutté pour renaître. 1848-2013, voilà déjà 165 ans que l'esclavage a été aboli aux Antilles françaises. En 1998, j'étais co-auteur avec Marie Abraham d'un ouvrage consacré aux femmes, Femmes des Antilles, traces et voix, 150 ans après l'abolition de l'esclavage. Il était déjà question de donner la parole aux femmes, de rencontrer les Antillaises d'autrefois, mais aussi celles d'aujourd'hui, de peser les héritages et de pénétrer l'intimité de ces femmes. Le livre se présente comme une galerie de portraits, une chambre d'écho, une escale dans le cœur des femmes, un récit de voyage au bout de l'esclavage. Oui, 15 ans plus tard, il est encore besoin de revenir sur ce passé de verge et fouet, carcan, traite, nègre et négresse et négrillon et négrite, rasier, enchaîné, jarret tranché, langues avalées, nouveau-né étouffé et noyé. De quelle manière aborder encore ce sujet, faire face à la monstruosité avec une certaine distance? Tant d'historiens, de chercheurs se sont déjà penchés sur des archives, des livres de contes, des journaux de bord, d'autres intimes ou très officiels. Comment évoquer les femmes et les enfants broyés dans cette vaste entreprise de brutal asservissement et d'insatiable colonisation, cette volonté irrépressible et fébrile d'une partie de l'humanité d'en réduire une autre, de la réifier, de la chosifier en violentant et violant, négociant vaillamment avec des roitelets avides, des hommes d'église, des commerçants ayant pignon sur rue, et puis de s'approprier par tous moyens des territoires voisins en composant toujours avec la morale et les bons sentiments. Que dire aujourd'hui à ce 21e siècle qui rechigne à regarder de plus près ce passé colonial? Qu'oser dire à propos de l'esclavage qui semble remonter à un lointain, appartenant plutôt aux descendants de nègres transportés en temps, vendus par les uns, achetés par les autres durant des siècles et des siècles? Enfin, de quelle façon partager ce passé, soulager les corps et les esprits de ce poids, de cet accablement, du plomb de la mémoire souffrante, invisible, indicible? Peut-être entendre à nouveau ces femmes, les écouter, écouter ce qu'elles ont à nous dire, les hauts et bas de leurs existences. Qui étaient-elles, ces femmes esclaves? En ces temps où la morale s'accommodait si aisément de l'horreur, beaucoup de ces femmes furent les solides guerrières de l'ombre, dans une soumission toujours feinte, les rebelles dociles courbées dessus leurs tâches dans la maudition des champs de canne, les domestiques serviles, couchées sur le plancher au pied des lits de leurs maîtresses blanches ou libres de couleur, les enfanteuses des fruits métis du Nouveau Monde, les sorcières empoisonneuses et les reines sans nom. Femmes déchues, femmes flammes, dans la nuit sans lune de l'esclavage, femmes traîtresses, usurières de l'obscure, infime victoire et misérable conquête, femmes enclumes, femmes marronnes, femmes ventres, femmes ogresses, femmes. Elles ont dû ruser pour imposer leur voix, marquer la ligne d'horizon, préserver la marmaille. Femmes possédées et convoitées à la fois par les vaincus et les vainqueurs de ces temps de folie. Leurs corps servirent d'instruments pour consoler les uns et satisfaire les autres dans leurs besoins de chair. Elles soulevaient leurs gaules de grosses toiles devant le plaisir féroce de Monsieur le Maître, les promesses sucrées d'un affranchissement et les rêves d'un enfant mulâtre sorti comme un miracle de leurs entrailles. Ou bien elles offraient leurs cuisses à l'impérieuse mendicité de leurs compagnons de misère, des nègres sans pays qui avaient survécu à l'enfer de la traversée et tournaient fous doucement, loin, si loin des rives de la terre d'Afrique. Des nègres chargés de fureur à qui elles n'appartenaient jamais réellement, sinon toujours après le maître. Des nègres amers qui ne bâtissaient qu'un précaire lendemain, ne s'attachaient guère et qui, en vérité, ne possédaient que la sève brûlante qui leur donnait le sentiment d'être encore vivants. Femmes d'esclavage, elles serraient dans leurs bras des petits d'hommes à peau blanche à qui elles donnaient leur sein noir à téter, le lait d'un amour maternel ambigu, le lait de leur propre progéniture qu'elles regardaient souvent avec amertume, si sombre se présentaient les auspices de leur vie aux Antilles. Qui étaient-elles? Leur nom, leur visage. On les appelait pièces d'Inde. On attendait d'elles qu'elles soient des reproductrices, des machines sans âme ni sentiment, travaillant sans relâche dans les champs. tant d'entre nous ne se sentent pas concernés par ce pan de l'histoire de l'humanité et renvoient qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils n'ont réduit personne en esclavage et n'ont pas à culpabiliser pour ci et ça et surtout pas les chaînes et le fouet dont usèrent leurs ancêtres oubliés. Il est vrai que l'esclavage n'était pas visible sur le sol français. L'ignominie se déroulait au loin, sous les tropiques, dans les îles de la Caraïbe, qui ne sont plus souvent aujourd'hui que touristiques et exotiques. Mais les grandes villes négrières de France, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Le Havre, entre autres, commencent doucement à se souvenir de la traite négrière, se souviennent des fortunes bâties sur le commerce triangulaire. Non, sur le territoire national, il n'y avait pas de marché aux esclaves, pas d'entrepôt de ce bétail-là, pas d'hommes, de femmes et d'enfants de cette autre race jugée inférieure, enchaînée et vendue et fouettée sur la place publique, comme par exemple aux États-Unis. La France n'est pas hantée par ces fantômes. Et les âmes errantes de cette histoire-là n'ont pas même abordé les côtes, ce qui rend plus commode l'état d'amnésie. Mais les descendants de ces hommes et femmes réduits autrefois à l'esclavage sont là, partout sur le territoire national. Ils sont devenus des domiens fondus dans le décor. Comprenez, des Français d'outre-mer avec des droits et des devoirs de citoyens français. Ils sont même aujourd'hui des Européens et s'en vantent et s'en enorgueillissent parfois face à d'autres Caribéens. Beaucoup des Antillais français d'aujourd'hui ont longtemps souffert d'une autre forme d'amnésie, d'une identité vacillante. Fallait pas parler de ce vieux temps de chaînes et fouets. Fallait tourner la page de cette histoire-là et se proclamer français à part entière, tandis que d'autres se revendiquaient français entièrement à part. Aller de l'avant, passer à autre chose. Fallait oublier coûte que coûte. Et ceux qui s'évertuaient à reconstruire ce passé éboulé, à retrouver et connaître quelque chose de leurs ancêtres, apprendre de la transmission orale, sonder les traces, étaient décriés, passaient pour des gens aigris. Beaucoup se cherchent à présent, collectent, fouillent leur mémoire, tentent de remonter aux origines, aux noms donnés aux ancêtres, par exemple, des noms fabriqués au lendemain des abolitions, remontés en songe jusqu'à l'entrepôt du bateau négrier. Non, il ne s'agit pas ici de faire la chasse aux coupables, non plus de se poser en victime souffrante. Alors pourquoi revenir encore une fois sur l'esclavage? Peut-être, sûrement, pour se regarder sans complaisance en tant qu'humain. Peut-être pour se rassembler entre gens du monde avec un brin d'humilité, une envie forte et réelle de se rencontrer, d'échanger nos mots et nos images, nos représentations ici, au musée du Quai Branly, où dialoguent les cultures, afin d'envisager de nouvelles pistes pour les temps à venir. Se réunir pour écouter encore une fois nos histoires, nos contes et légendes et apprendre de tout cela et se découvrir à travers cela et se questionner pour grandir et évoluer dans notre humanité. Écouter les voix de ces femmes. Aux Antilles françaises, on ne peut pas dire que le temps de la traite et de l'esclavage s'est perdu dans les lames de l'oubli. Longtemps, il est demeuré tapis dans les mémoires, enfermé dans les mâles d'un passé honteux, tout du moins peu glorieux pour nos humanités. Les secrets de famille finissent toujours par être éventés. Les silences finissent par être rompus. Les non-dits finissent par être brisés. Les vérités par se dévoiler d'une manière ou d'une autre, même si fragmentées, éclatées. C'est ce que la vie, dans ses mystères, m'apprend à chaque instant. C'est ce que m'enseignent ces personnages qui se dévoilent jour après jour, tandis que je noircis les pages blanches et m'échine à écrire des romans. Aux Antilles, pour qui veut bien voir L'esclavage a laissé des traces dans tous les paysages, écrits à la vie, à la mort, sur les rivages, dans les mers, démontés des champs de canne, au bas des immeubles tagués de nos cités, au mi-temps des fièvres du carnaval, dans la folie ordinaire, le chaos des ghettos, dans les savanes désolées, dans les coups de sable, dans les cases livrées aux figuiers maudits, dans nos contes et légendes, bien sûr, dans le rhum et le sexe et le crack, dans l'amour, la maternité, dans les rapports entre les hommes et les femmes, chez nous. L'esclavage est inscrit au plus profond de nos chairs, comme il s'inscrit dans toute la littérature des Caraïbes, la chair des hommes, la chair des femmes, la chair des arrière-arrière-petits-enfants de ces gens dont on a fait commerce. Ce temps-là, il résonne en nous dans le son du tambour K, qui est plus vivant que jamais en Guadeloupe et Martinique, et de plus en plus de femmes s'assoient maintenant sur le tambour pour cogner la vie, les jours longs, chanter l'amour, le blues et les tribulations, la déveine et les chances et malchances, les vagues à l'âme, les enfances meurtries et la joie des corps. Oui, ce temps-là frissonne et exulte en nous dans le parler créole dont on avait combien de fois annoncé l'agonie au cœur de toutes les petites victoires de la départementalisation, dans les préceptes d'assimilation, dans la francisation, dans l'aliénation, dans l'acculturation, dans le doudouisme, dans le blanchiment, dans les allocations. La langue créole s'entend dans le mépris de nous-mêmes aussi, dans la dérision coutumière, les paroles de fatalité, les prières à Dieu ou diable, les moqueries, l'ironie, la dérision. La langue créole, codée, chargée en paraboles et métaphores, langue à tiroir secret qui dit sans dire tout à fait, qui se dérobe, échappe à l'entendement. Oh, les railleries à l'encontre des écorcheurs de la langue française. La langue créole charriant ces images maternelles, grand-maternelles, et qui témoignent de notre filiation avec cette solide négraille déportée des Afriques. La langue créole, née du sucre, mêlée à la sueur et au sang dans les champs de canne, dessous le fouet, et qui vibre et chante et enchante et slame et déclame et transmet et voyage aujourd'hui dans le monde entier pour dire notre part à l'humanité, notre existence, notre singularité accolée à toutes les autres. Et encore, ce temps d'esclavage présent, vivace, aussi dans la cuisine des femmes créoles, qui réinventent chaque jour les gestes et les techniques savantes, héritées de leur mère, de leur tante et des grand-mères, mangent-elles tout cet art d'accommoder les bas morceaux laissés par le maître, tout ce savoir transmis de mères en filles, toute cette imagination mise en branle pour la survie, toute cette débrouillardise en mouvement perpétuel, tout ce déploiement d'énergie pour faire entrevoir la possibilité d'un demain un peu plus lumineux aux enfants, toute cette patience dans l'attente d'un affranchissement, d'une promesse d'abolition. Il y a tellement d'histoires à écrire sur cette grande histoire. Les abois d'une femme angésine. Comment s'appelait-elle celle-là, précisément, et toutes les autres? Combien de femmes enceintes ont porté la vie dans les bateaux négriers, la vie et la mort? De quelle manière, sans tressaillir, songer à cet hyper-commerce d'êtres humains légalisés, organisés, régis par des États empressés d'offrir ce qu'ils nommaient la civilisation au reste du monde? Combien d'êtres humains rasiés, déportés, des hommes, des femmes et des enfants? Béthanie, ils avaient des bâtons qui donnaient la mort. On était peut-être 100 à marcher par deux, les uns derrière les autres. On a marché longtemps, on marchait. On ne savait pas vers quoi. Beaucoup voyaient la mort au bout de cette expédition. J'ai perdu la parole quand ils m'ont planté la fourche dans le cou, la fourche qui me retenait à un autre. Et même si les mots se bousculaient dans ma tête, ils ne sortaient pas de ma bouche. Ils sortaient de mes yeux en larmes inutiles. Les autres, comme moi, criaient, gémissaient et parlaient entre eux de leur infortune. Mais moi, je ne savais que pleurer et traîner mes jambes lourdes. Combien d'hommes, de femmes et d'enfants rasiés, déportés, Tant de chiffres avancés par les uns et les autres, toutes les nations de la vieille Europe avaient leur bout d'Afrique, une part du gros gâteau, bonbon, sirop. Comment, encore et surtout, écrit Édouard Glissant, dans Mémoire des esclavages, partager ces histoires avec les pays d'Afrique, de toutes les Afriques, de celles qui succombèrent à l'attrait des bricoles et des colifichets. On dit que ce fut en échange de 40 millions de victimes. On dit que ce fut pour 100 millions de victimes. Quand ferons-nous le décompte? Et qui pourra jamais savoir? Et de celles qui pleurèrent sur les côtes, devant la mer, où s'est écoulé ce large flot, comme le sang d'une frappe béante. Ces chiffres donnent le vertige, mais plus encore ce qui demeure dans une autre dimension, perdue à jamais, inconnue, évasif, approximatif, comme incertain, improbable. Soudain, le sentiment de brasser du vent, de piétiner dans un cauchemar où les planchers s'effondrent et se dérobent, où tout brûle autour et part en fumée, où les revenants se pressent autour de vous, sans consistance, dans une odeur putride. Les peuples complices de la traite étaient-ils donc tous sourds et aveugles et incapables de percevoir la souffrance de leurs semblables? Mais que de compromis pour du profit! L'avenir des peuples d'Europe était-il en jeu? La survie des peuples d'Afrique était-elle à ce prix? Peut-être, qui sait, de part et d'autre, il y avait l'angoisse toute primaire de l'homme, à servir ou périr. Et pour aller plus loin, dans le même ordre d'idées, conquérir ou périr, coloniser ou périr. Car si vous ne le faites pas, personne ne vous attend et tout autour les autres avancent et vous guettent. Oui, l'angoisse de disparaître, de mourir, de se faire dévorer par les autres. Je m'interroge. La peur de manquer de nourriture, d'énergie, d'eau, de ressources naturelles réduit-elle toute humanité à cette ivresse, à ce chaos sans fin? Oui, en ce temps, les enjeux étaient colossaux à l'échelle des nations en construction, en voie d'industrialisation, d'empires coloniaux, tellement de territoires à conquérir avant les autres, de peuples à asservir. Mais est-ce que les temps ont vraiment changé? Oh, l'Afrique tout entière convoitée de haut en bas, oui, jusqu'à sa pointe, dans tous ses déserts, ses anses et ses confins, et ses horizons et ses forêts luxuriantes et magiques. Tout prendre d'elle, sonder ses profondeurs, exploiter ses sous-sols jusqu'à la dernière miette et aliéner ses peuples, diviser ses peuples, coloniser encore et encore, créer des protectorats ici et là, des comptoirs, des compagnies de ceci et cela. Aujourd'hui, au XXIe siècle, se regarder les uns les autres en tant qu'humains, égaux en dépit de nos différences et riches de ces différences. Considérer un instant notre capacité à supporter la souffrance des autres en toute connaissance de cause, dès lors qu'ils ne sont pas de notre famille, de notre couleur, de notre tribu. Se lever contre la barbarie de l'humanité proche et lointaine, télévisée, banalisée. Ne plus accepter que des hommes, des femmes et des enfants esclaves soient livrés à la merci de maîtres dits civilisés, rasiés comme autrefois, opprimés, séquestrés, violés, dépossédés de leur grade d'être humain, de leur dignité, de leur existence propre. Ceux qui sont contraints à la prostitution, ceux qui tissent les tapis sans fin, ceux qui grattent dans les mines, ceux qui cherchent dans les décharges, ceux qui mendient jour et nuit, ceux qu'on estropie, ceux qu'on viole, ceux qu'on affame, ceux qu'on abrutit, ceux qu'on dépouille, ceux qu'on avilit, ceux qu'on sacrifie, ceux qu'on mutile, aujourd'hui encore, hier comme aujourd'hui comme hier et demain. Comment penser avec une once de sérénité à ces êtres humains versés par-dessus bord lors de toutes ces traversées entre l'Afrique sauvage et les Amériques à conquérir. Songez à ces âmes égarées et vieux os dormant au fond des eaux. Aujourd'hui, combien d'autres viennent chaque jour pour les rejoindre dans les abysses des océans, dans ces traversées improbables, désespérées, désespérantes, boat people,
Coquilles de noix,
pirogues
d'espérance, radeaux de bambou, embarcations de fortune. Combien d'hommes, de femmes et d'enfants testent leur chance dans ces voyages vers le vieux monde pour rejoindre la civilisation, les pays d'Europe, leurs anciens colonisateurs. 1848, il n'y a pas si longtemps après tout, 165 ans. Et l'on reconnaissait enfin sa qualité d'être humain aux hommes et femmes tirés de l'Afrique noire. Un certain naturaliste et anthropologue, M. Julien-Joseph Viret, né en 1775 et mort en 1846, ne déclarait-il pas que chez le nègre, le front se recule et la bouche avance, comme s'il était plutôt fait pour manger que pour réfléchir? Le sieur Viret proposait en effet à l'époque l'existence de deux espèces humaines, la blanche et la noire. Mais les préjugés ont la vie dure. Tant de racisme encore aujourd'hui. 1848, la seconde abolition dans les colonies françaises, il y a 165 ans. Est-il dit que le temps des mondes barbares est échu? Le chemin est long pour que l'humain s'accepte dans sa diversité, mais il y a encore un si long chemin à parcourir dans ce temps hautement technologique et de plus en plus virtuel où nous communiquons trop souvent par la violence et où l'esclavage, le racisme perdure. Écrire est une façon de questionner le monde, interpeller ses contemporains, jeter un pont entre les uns et les autres, se rencontrer. Mais revenons au bateau de la traite. Nous sommes ensemble dans la même histoire, les mêmes histoires, embarqués dans le même bateau. La traite des nègres, une entreprise phénoménale sur les routes transatlantiques. Le misérable négoce, qu'il faut nommer par son nom, le commerce triangulaire, imprime ces sillons meurtriers entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Autant de lignes névrotiques, de triangles isocèles indélébiles tracés par les navires inquiets sur les eaux de l'océan, des siècles durant, sur les cartes d'un monde épris à la fois de liberté et de conquête. Ensemble, à bord, l'équipage et sa cargaison, les hommes et les femmes et les enfants, ensemble, les cales sombres et pestilentes des chairs meurtries, les ténèbres de l'entrepont, les soutes, les parcs à nègres, les fers, les anneaux, la barre, le fouet. Oh oui, j'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit d'un congète à la mer, les abois d'une femme en gésine. Zanina. J'ai dû danser pour les hommes du bateau, pour les hommes blancs qui nous menaient de l'autre côté de la mer. On supposait que c'était chez eux qu'ils nous emmenaient. Entre nous, on parlait de ce pays d'où ils venaient, on n'en connaissait pas les couleurs. Beaucoup disaient qu'ils allaient nous manger, arrivés là-bas, qu'on allait leur servir de viande. Je suis Zanina. J'ai dansé la danse de la pluie pour me laver de ceux qui me prenaient debout dans un coin, devant les autres, qui riaient en attendant leur tour. J'ai dansé tout le temps de la traversée et la pluie n'est même pas tombée une seule fois pour me laver. J'étais pas la seule à qui ça arrivait. J'étais comme les autres, je restais là. À la fin, je ne me débattais plus. Ils étaient pareils à des lions qui avaient faim de nous. Et ça servait à rien de courir devant eux. Le seul moyen de leur échapper, c'était de se jeter dans la mer qui était un autre genre de lion, enragé. Je portais l'enfant de tous ces hommes quand je suis arrivée au pays Guadeloupe. Et comme les femmes, ces navires portent la vie. Ces navires sont des femelles aussi, engrossées en Afrique. Ils vont mettre bas aux Amériques et dans les Caraïbes, jaloux du fruit de leurs entrailles. Les ventres de ces navires sont pleins de vies emmêlées. La traversée dure, une si pénible gestation, bercée par les cris, les plaintes, les chants de mort des nègres entassés. Et ceux-là, qui vont naître de l'autre côté du monde, sont des chanceux, peut-être les plus vigoureux, qui auront survécu au voyage sans retour. Tant d'autres ont péri avant d'arriver là. Oh oui, les femmes dansaient sur le pont de ces navires pour amuser et distraire l'équipage, pour tremper le temps long de la traversée, les jours mornes, la puanteur remontée des cales, les infections, les épidémies, le scorbut, les fièvres sans nom, les cris agaçants du chargement, pleurs et plaintes, dernier râle avant de dire adieu à la vie, même pas le temps d'accoster aux îles, de fouler la terre du pays, de l'exil, de soupeser les affres de la déportation, de rencontrer sa nouvelle vie, la marâtre, la terre d'adoption. Imaginez un instant l'angoisse et la terreur. Quel âge avait-elle ? Les abois d'une femme en Gésine. Une femme qui n'est plus une femme, mais une chienne amarrée à sa chaîne et qui aboie. Imaginez encore, sans se lasser, la cale morbide, les souffrances miaulées, les désolations éructées, la mort qui rôde avec ses dents noires, toute excitée. Imaginez les cris non pas d'une parturiente, mais d'une chienne qui m'ébat parmi les fientes, les vomissures, les râles. Imaginez l'inimaginable et les ressassements, les prières, les incantations, les tremblements, les questionnements qui rongent de l'intérieur. Mais où allons-nous ? Et combien de temps durera le voyage ? Et pour quel but ? Quel horizon ? Quel châtiment ? Que signifie donner la vie pour cette femme en Gésine ? Porter la vie, mettre au monde un enfant, un innocent sorti du ventre du bateau, né entre Charybde et Scylla ? Que signifie entrer dans la vie parmi les mourants, dans le giron d'une longue bière flottante, disait Mirabeau à propos des navires négriers, dans le fracas des océans démontés, immense tapis mouvant qui ballotte et secoue et cogne furieusement. Entrer dans la vie prédestinée, déjà vendue et achetée dans le ventre de sa mère. Entrer dans la vie sous le regard désolé et tellement douloureux d'une femme aux abois qui ne saura guère vous protéger. Oui, qu'en était-il de ces grossesses et ces accouchements dans cet univers de haute brutalité ? Est-ce que les petits sentaient l'odeur de la mort dans le ventre de leur mère ? Est-ce qu'ils se tenaient là comme dans une geôle ? Donnaient-ils des coups de pied pour se révolter ? Et que se passait-il lorsqu'elles perdaient les os et urinait et déféquait tout en repoussant la vie hors d'elle. Et qu'en était-il des douleurs de l'enfantement ? Est-ce qu'on les détachait ? Est-ce que d'autres femmes étaient autorisées à leur porter assistance ? Et qui se chargeait de couper le cordon et le linge qui enveloppait l'enfant ? Oh oui, il arrivait que les nègres se jettent par-dessus bord, préférant les mâchoires de l'océan aux vastitudes de l'inconnu. Il faut les surveiller de près. Le 16 avril 1737, par exemple, sur le Phénix, vers les 11 heures du matin, s'est précipitée à la mer une négresse. On aurait envoyé un canot pour la sauver, mais les requins la dévorèrent à l'instant qu'elle fut dehors. Au cours des jours qui suivent, Eustache de la Fosse raconte dans ses voyages sur la côte de Guinée, au Portugal et en Espagne, que les officiers rédigent 19 autres constats de suicide. Aucune femme n'hésite. Elle plonge au milieu des requins sans un cri, sans un mot. Dans le cahier numéro 1 des Annaux de la mémoire, Bruno Hervé rapporte quelques aspects de la traite négrière nantaise, extrait de la déclaration de retour de Monnier, capitaine du Soleil. Il s'est jeté de dessus la dunette à la mer et dans les lieux, 14 femmes noires, quelques diligences qu'ont pu faire, la mer étant extrêmement grosse et agitée, ventant avec tourmente. Les requins en avaient déjà mangé plusieurs avant qu'il y eût même du monde embarqué, qu'on parvint cependant à en sauver 7, dont une mourut. Se souvenir, faire entendre les voix de ces femmes, romancer ces souvenirs-là pour les partager. Fabienne Canor, jeune écrivaine martiniquaise, raconte le sombre destin de ces 14 femmes dans son roman « Humus » paru aux éditions Gallimard. Dans son livre « Rosalie, l'infâme », l'écrivaine haïtienne Evelyne Trouillot rend compte de la traversée de la vie des esclaves sur une habitation de Saint-Domingue. Elle fait le portrait de plusieurs générations de femmes, Lisette, Charlotte, Mont-Augustine, leurs combats, leurs espoirs. Et encore Marie Scondé, avec moi, Tituba, sorcière noire de Salem, raconte l'histoire d'une jeune esclave, née d'un viol sur un bateau négrier. Et tant d'autres femmes écrivaines des Amériques ont narré l'esclavage des femmes à leur manière. Toni Morrison, bien sûr, avec Beloved. Tant d'écrivaines noires, descendantes de ces femmes-là. Il ne s'agit pas là d'explorer un sujet à la mode, d'user un filon qui rapportera quelques gloires ou monnaies. Tous ceux, toutes celles qui écrivent encore aujourd'hui sur l'esclavage le font pour donner sens à leur écriture, pour rencontrer l'humanité. Combien, dès la traversée d'enfants étouffés d'entre les mains de leur propre mère, où elles se révoltaient aussi aux côtés de leurs compagnons d'infortune. Jean-Michel Devaux rapporte dans son ouvrage « La traite rochelaise » que sur le négrier baptisé l'amitié, des femmes complotent et s'entendent avec les hommes pour se rebeller. Non, il n'est pas dit qu'elles acceptaient d'emblée leur destin. Par tout moyen, elles cherchaient déjà à échapper au sort qu'on leur réservait, le suicide, et même par la mélancolie qui trace une autre façon de fuir l'abject de la réalité. Oui, tous embarqués dans le même bateau de la traite, blancs et noirs ensemble. Pour les grands organisateurs, la tâche consistait à embarquer et conduire les nègres d'un point à l'autre du globe terrestre, un banal import-export, transporter le bois d'ébène d'Afrique en Amérique, charroyer de la négraille, surveiller de près la spécieuse cargaison, veiller à maintenir l'ordre et la vie, préserver tant que faire se peut le butin humain. Ils ont voyagé ensemble sur ces bateaux. 1818, abolition de la traite négrière pour la France. 1848, abolition de l'esclavage aux Antilles françaises. La liberté pour les Noirs, les hommes, les femmes et les enfants des colonies françaises. Après tant de combats, ceux des nègres et négresses marrones, ceux des abolitionnistes d'ici et d'ailleurs. 1848, il n'y a pas si longtemps. 1865, abolition de l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Mais il y a d'autres dates importantes pour notre humanité. 1963, la fin des lois ségrégationnistes aux États-Unis d'Amérique. Après tant de combats, le passage sur terre de tant d'hommes et de femmes qui se sont levés contre l'injustice et les lois criminelles imposées par quelques élites ou élus. 1980, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Tant de combats pour exister à l'égal des autres. 10 mai 2001, adoption de la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Aujourd'hui, nous nous devons ensemble d'affronter les images du passé pour bâtir les mondes qui se lèvent dans l'écho des fracas et pétarades et guerres fratricides des temps anciens, dans les rancœurs ancestrales, tribales, les hurlements lancinants des peuples assassinés ici et là-bas et qui nous hantent dans les vieux et nouveaux continents, sur ces terres supposées hostiles et ces eldorados miraculeux aperçus depuis les petites lucarnes, les mâts de cocagne, et ces confins inexplorés où résident des peuples assoupis au bord de l'eau, en suspens dans les arbres, et ces îles vierges et toujours prometteuses d'or et d'hélices, femmes offertes, lascives, bons temps et jouissances. Mère, patrie et marâtre métropole engoncées dans leur sublime certitude, enfantant lois et décrets, connaissances et savoirs en tout genre. Aujourd'hui, il nous faudrait entendre les autres histoires à côté de celles dites officielles. Et partout, il y a cette demande, cette soif d'histoire. En périphérie, dans les banlieues dortoirs où sont cantonnés des déracinés, des exilés, des sans-papiers amers, où les arrière-petits-fils et petites-filles du Bumidome fréquentent les arrière-arrière-petits-fils et petites-filles des peuples colonisés autrefois au Maghreb et dans toutes les Afriques, jusqu'aux infinies étoiles de l'Internet et des réseaux sociaux qui tirent leur fil de par le monde, et aussi dans les dômes qui dansent le zouk et font frire les acras et chantent la vie et la mort du matin au soir pour s'étourdir. Pullulent les petites histoires qui nous racontent. Comment ordonner ces pensées qui poudroient, se multiplient, animent la mémoire et la peuple d'ombre fugace? Pourquoi continuer à écrire sur ce vieux temps? Comment se défaire de ces oripeaux? Comment expliquer la nécessité de poursuivre dans l'écriture? Comment aujourd'hui se positionner en tant qu'écrivaine issue de ces histoires, femmes noires, descendantes des maîtres et des esclaves créoles? Un si vaste charnier,
un chantier gigantesque, une mer de douleurs, une étendue inexplorée, une mémoire fragmentée qui envoie des signes et qui soudain éclaire un chemin. Retrouver la trace de ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont arrivés jadis aux Antilles, au bout de la traversée. Angélique, quand les îles ont crevé la mer et que les marins ont crié la joie, mon cœur s'est serré et mes jambes sont devenues molles. On nous a bourrés dans le dos, on nous a cognés à coups de bâton sans vraiment chercher à nous abîmer. On nous a forcés à avancer comme un seul troupeau, forcés à sortir du bateau comme du ventre obscur d'une mer pour une nouvelle naissance. C'est bien ça qui nous est arrivé. Je n'ai pas de mots pour dire notre destin, mais ça ressemblait bien à ça. Une naissance, nous étions nus, la cale du bateau nous avait portés, nous si grands, déjà hantés par des rêves, déjà riches d'une première vie, déjà brisés et décrépits. Avant de fouler la nouvelle terre, j'ai appelé la mort au secours et qu'elle vienne au même moment. Hélas, le sang ne s'est pas raidi dans mes veines et la vie a continué à couler dans mes yeux et ma gorge, la vie amère et cendreuse comme la mort. La terre de Guadeloupe m'a longtemps brûlé les pieds dans les canets immenses, coupé canne, haché canne, amarré canne, et le fouet dans le dos courbé, les reins cassés. J'ai mis du temps avant de fourrer la main de moi-même dans la terre de Guadeloupe et creuser les sillons de mon jardin. J'ai mis du temps avant de comprendre son âme, mais il a bien fallu que je plante le manger de mes enfants. Nègres et négresses d'Afrique, tremblants ou fiéraux, même pas peur du gouffre, de l'enfer, même pas mal sous le fouet, les oreilles à couper ou la main ou le jarret, même pas en mesure d'imaginer les tortures et châtiments à venir. Pendre, rouer vif, brûler vif, pendre et brûler, couper le poignet, traîner et pendre le cadavre, donner la question ordinaire et extraordinaire, couper le jarret et flétrir, fouetter, mettre au carcan, couper la langue, percer la langue, couper la langue et flétrir, prêter l'oreille et écouter les femmes esclaves d'hier, celles qui sont venues d'Afrique, celles qui sont nées aux îles. Awa, Clarisse, Zanina, Angélique, Lisette, Tituba. Pour tirer encore et encore des enseignements, pour apprendre de nous-mêmes et transmettre ces fruits rares oubliés. Dans mon roman « Sans vie et des poussières », les temps s'étreignent soudain. La grande histoire est là, reconstituée, retrouvée dans les pas des personnages. Leur lien avec l'île de la Dominique, par exemple, qui recueillait des marrons de toute la Caraïbe, puisque l'abolition avait eu lieu en 1833, et le passé d'esclavage entre par effraction soudain dans le présent, à cause des pelleteuses qui, en 2009, à la veille de l'élection de Barack Obama, viennent creuser la terre pour jeter les fers amarrés et verser le béton des fondations de quelques logements d'une cité destinée aux miséreux. Hélas, à la Ravine Claire, ces fouilles ramènent au grand jour des ossements, de vieux squelettes d'hommes, de femmes et d'enfants, qui racontent l'histoire d'une communauté de nègres marrons assassinés jadis. Le passé exhumé est en particulier incarné par Théophée, qui a fui l'habitation de son maître. Ce dernier revendait systématiquement tous les enfants que son esclave mettait au monde. Théophée interpelle Gina, une femme qui vit seule, qui élève ses 7 enfants de 6 papas différents. Elle vit d'allocation familiale et se désintéresse de sa progéniture dès lors que celle-ci grandit. Théophée demande à Gina ce qu'elle fait de la liberté si chèrement acquise par ses ancêtres. Qu'est-ce qu'être mère dans la Guadeloupe d'aujourd'hui, dans toute cette opulence factice et parasite, dans cette boulimie de consommation, dans ce brouhaha étourdissant, dans ce goût du paraître? Pourquoi ces familles brisées, ces enfants élevés sans père ni repère? Pourquoi cette violence entre les hommes et les femmes? Pourquoi cette violence omniprésente, sans nom? Dans « Sans vie et des poussières », la négresse marronne, Théophée,
incarne une Guadeloupe résistante qui réclame un sursaut de la part de la société guadeloupéenne. Elle dit implicitement, tentez de comprendre ce qui motive vos comportements. Souvenez-vous, étudiez votre histoire. Combattre la violence est un grand défi pour les hommes et les femmes du petit quartier de la Ravine Claire, aujourd'hui comme hier. Combattre la violence est un grand défi pour les hommes et les femmes de notre planète. Dans Esquisse des mœurs coloniales, publiée avant 1848, une certaine Madame Letellier écrit ceci. Il y a dans les rapports des créoles avec leurs esclaves une barbarie qui s'ignore elle-même et qui, si l'on peut profaner cette expression, a quelque chose de candide. La manière dont on nous élève nous habitue à ne pas distinguer nos esclaves de nos chevaux. C'est une grande pitié de voir des marmots frappés de misérables domestiques dont ils connaissent déjà la dépendance et se préparer par cette violence prématurée à la tyrannie d'un autre âge. Il n'y a pas si longtemps, aux États-Unis d'Amérique, en Afrique du Sud et dans d'autres endroits du monde, et même en Haïti aujourd'hui, là où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité, il y a des enfants domestiques, humiliés, maltraités, corvéables à merci. Il y a des maîtres, des gens honnêtes, civilisés, instruits, qui vivaient dans l'apartheid, dans les lois ségrégationnées, considéraient que d'autres leur étaient inférieurs. Les mentalités évoluent avec lenteur, même s'il y a aujourd'hui un Obama aux États-Unis. Raconter encore et encore ces histoires transmises de façon mystérieuse et cependant impérieuse, ces histoires anciennes qui viennent jusqu'à nous par-delà les ans, souterraines, clandestines peut-on dire, d'hier à nos jours. Ce qui s'est passé en temps rebondit comme un galet qui fait des ricochets sur l'eau. Ce qui s'est passé est un cri de nos humanités, mille cris qui font l'écho à l'infini. Ce qui s'est passé pour notre humanité est une blessure qui ne guérit pas, une croûte que l'on ne peut s'empêcher de gratter et d'arracher et qui se reforme et nous épuise et nous vide de nos forces. Ce qui s'est passé entre nous autrefois, mais avant-hier aussi, sème chaque jour des graines amères qui n'attendent qu'une petite pluie, un coup de vent pour surgir en feuilles, fleurs et branches. Ce qui s'est passé ne cesse pas. L'esclavage est notre présent pour certains, malchanceux, nés du mauvais côté, dans notre flamboyant et mortifère 21e siècle. Ce qui s'est passé éclabousse les nouvelles générations, les descendants des uns et des autres, les arrière-arrière-petits-enfants. Mais l'histoire qui nous passionne ici chemine, qu'on le veuille ou non, par les voies obscures de l'inconscient, dans les répétitions incongrues, les postures défensives, les paraboles, les réactions intempestives, la virulence, la dérision, la colère, le fatalisme, les réflexes de débrouillardise, le désespoir, l'attente et la patience. Elle est léguée en héritage, même si bon nombre s'en défendent, la repoussent avec vigueur, la réfutent ou la méprisent, répétant avec application les mots de Frantz Fanon. « Je ne veux pas être esclave de l'esclavage ». Sans ajouter une autre parole tirée des damnés de la terre, le tiers-monde n'entend pas organiser une immense croisade de la faim contre l'Europe. Ce qu'il attend de ceux qui l'ont maintenu en esclavage pendant des siècles, c'est qu'ils l'aident à réhabiliter l'homme, à faire triompher l'homme partout, une fois pour toutes. Et écoutez aussi Édouard Glissant à ce propos, pour mieux peser les mots. C'est ce que Fanon voulait dire quand il déclarait ne pas entendre être l'esclave de l'esclavage, ne pas camper à l'aveugle sur la souffrance de la masse des esclaves passés, même si ce sont ses ancêtres. Il veut aussi regarder ailleurs, vers d'autres peuples qui souffrent, vers d'autres pensées qui partagent. Et je suggérerais plus tard que si l'esclave pouvait ne pas savoir, mais il essayait à toute force de déchirer ce voile devant ses yeux, l'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir. ce souvenir. On sait aujourd'hui que ce souvenir permet de soigner, penser et surtout envisager un après. Se souvenir en libérant la parole. Revenir sur l'esclavage des femmes et des enfants, après la razzia, la traversée, à leur côté les hommes noirs, les hommes blancs, et après les corps à corps, la possession des corps, la procréation qui donne des êtres plantés à mi-chemin entre une mère esclave et un géniteur, monsieur le maître, les métis divers, variés, les chabins sortis du ventre de femmes noires, les mulâtres, les carterons, les créoles, habités à la fois par les frilosités et velléités de l'Occident, par les Amériques en grande effervescence et déchirure, et les Afriques pourvoyeuses, riches de peuples, hémorragiques et débonnaires dans leur largesse, avides des verroteries d'Europe inconséquentes. Oui, les maîtres aiment et désirent la chair des négresses. Ils copulent avec ce qu'ils considèrent comme du bétail, des femelles, pièces d'Inde, des androïdes. Les accouplements contre nature sont décriés de l'autre côté de l'océan, sur le vieux continent, pourtant si peu regardant. Promulgué en mars 1685 à Versailles, paraît le Code noir, édit du roi Louis XIV concernant les esclaves de l'Amérique. Le Code noir émane, vous le savez, de Jean-Baptiste Colbert, surintendant des bâtiments. Avec des mesures protectionnistes, Colbert favorise le commerce et l'industrialisation de la France. S'adossant à des théories mercantilistes, il fonde surtout des compagnies de commerce, celles des Indes orientales et occidentales en 1664, du Levant en 67, du Sénégal en 1673. Le Code noir. Sa publication est ordonnée dès 1787 dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, inscrite au Conseil souverain, afin que personne ne puisse le violer par malice ou ignorance. D'aucuns disent que le Code noir était une bonne chose, une mesure humanitaire destinée à améliorer le sort des nègres et négresses tombés, comme par mégarde en esclavage, rasiés dans les savanes et vendus par des rois africains. Le texte débute par une introduction qui verse dans l'empathie, la compassion et qui interpelle. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels, ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans les dites îles, et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les soutenir dans leurs nécessités. On se souvient aussi de l'empathie, de la compassion que manifesta Las Casas à l'encontre des Indiens. Le prélat Bartholomé de Las Casas s'émouvait du sort des Indiens, argumentait pour adoucir leur misère face à la brutale oppression espagnole et proposait pour les remplacer au labeur d'employer des nègres accoutumés à la servitude, de déporter des nègres, hommes, femmes et enfants. Après tout, l'Afrique pratiquait l'esclavage sur son propre sol depuis des temps et temps. Je voudrais vous lire une ordonnance du gouvernement espagnol de 1511. La Cour ordonne que l'on cherche les moyens de transporter aux îles un grand nombre de nègres de Guinée, attendu qu'un nègre fait plus de travail que 4 Indiens. Soit, un nègre vaut 4 Indiens. Dans un traité passé entre les compagnies du Sénégal et de Guinée, les habitants de Saint-Domingue, il est question de fourniture de 1000 nègres, dont 2/3 de mâles et 1/3 de femelles, réduits en pièces d'Inde, suivant l'usage des îles d'Amérique. Un nègre, pièce d'Inde, est un homme ou une femme, de 15 à 30 ans, sain, bien fait, point boiteux et avec toutes ses dents. Que vaut encore un nègre, pièce d'Inde ? Il faut 3 enfants au-dessus de 10 à 15 ans pour faire 2 pièces d'Inde. Il faut 2 enfants de 5 à 15 ans pour faire 1 pièce d'Inde. Les vieillards et les malades se réduisent en 3/4 de pièces d'Inde. Que vaut encore un nègre pièce d'Inde ? 36 livres à Gorée en 1693. 2 fusils pour un captif. 10 boîtes de poudre de 30 livres pour 2. 20 onces de kauri pour 4, 30 acres d'eau de vie pour un lot de 5 pièces d'Inde, et encore platis de hambourg, taffetas bleu, salampori blanc, calicot à grandes fleurs, chaudron de cuivre, fer en barre, pistolet, papier, iris de Florence, écharpes à franges, laine écarlate, balles de mousquet, ambre jaune, pipe de Hollande, collier et bijoux de verre quintin, grains de verre, tambour, corail rouge, etc., etc. Par ses 60 articles, le Code noir tente de porter la civilisation aux îles, mettre de l'ordre dans le désordre qui prolifère là-bas. Il faut d'abord chasser les juifs, puis baptiser au plus vite les nègres idolâtres, les instruire dans la religion catholique. L'Église catholique, apostolique et romaine est partie prenante dans cette grande aventure. Le profit, les lois du marché, de l'offre et de la demande ont jeté sur les mêmes poussières, de terre des hommes et des femmes, des blancs et des noirs, les uns maîtres et les autres esclaves. Ils vont vivre ensemble, bâtir les Amériques sur les décombres et les cadavres des peuples amérindiens. Avis. Le samedi 12 du courant midi, le commissaire-priseur vendra en son magasin divers meubles meublants, tels que tables, consoles, pliants, guéridons, sofas, pendules, chaises, glaces, lits, une boîte d'argenterie, bijoux, porcelaine, et l'esclave, Célanie, mulâtresse, âgée de 24 ans, avec son enfant, Aurélia, âgée de 4 ans, le tout provenant de la faillite du sieur Oculi Fouché. Journal officiel de la Martinique, le 6 septembre 1846. Oh, le marché, et les nègres et les négresses vendus sur le marché, vendus aux criers, aux enchères publiques, par lot ou séparément, négrillons dépendant de successions diverses, de ventes judiciaires provenant de saisies, exécutions, faillites, liquidations, et je passe tout ça, et tous ces actes dictés sans le moindre état d'âme, écrits, enregistrés, imprimés sur des courriers, des avis, des actes notariés, ainsi que des immeubles, des hectares de terre, du mobilier de mahogany ou courbaril, bois précieux par excellence. Et il faudra s'habituer à être vendu et revendu, passer d'une plantation à une autre, d'un maître à un autre, d'une île à une autre. Autour des lots de nègres, les marchands, les planteurs se pressent, les maquignons font l'article, c'est la foire d'empoigne. On soupèse du regard, on jauge la corpulence, on conteste les prix. Hommes, femmes et enfants, ils attendent. Ils n'ont rien d'autre à faire que d'attendre la bonne volonté de leurs maîtres et maîtresses. Ce sont des voyageurs sans bagages qui débarquent aux îles. Hormis les froids, que leur reste-t-il lorsque la traversée s'achève enfin? Hommes, femmes et enfants, quels sont les dieux qui habitent encore leurs esprits et leurs familles, dispersés, perdus à jamais, et la terre africaine qui les a vendus, qui les a laissés partir, qui n'a rien fait pour les retenir? Et bien vite, il leur faudra oublier leur langue. Bientôt, pour survivre, il leur faudra apprendre une autre langue. Combien d'Africains importés dans les îles françaises? Tant de nègres introduits en fraude après l'abolition de la traite, à côté de... ceux-là, on les nommait les nègres de pacotille. Tant de chiffres et de livres de comptes qui se contredisent et s'annulent. Dans son ouvrage « L'esclavage avant 1789 », Lucien Pétraud retranscrit un document officiel des archives coloniales en date de septembre 1670. « L'humain entrepose... et stocke et vend l'humain en magasin. C'est un état des nègres vérifié dans un des magasins de la compagnie par le juge de la Guadeloupe. Il s'agit d'un lot de 268 têtes, desquelles, est-il dit, avons procédé à la distribution et vente par sort. Il en a été délivré 48 par choix et préférence. Pour chacun de ceux qui restaient, nous avons fait un billet conforme aux étiquettes qui était au bras des nègres, marquant le numéro de chacun d'eux. Les ledits billets de nous paraffés ont été mis en 4 différents chapeaux, les premiers contenant les grands mâles, tant pièces d'Inde que vieux, les 10 vieux contremarqués, dans le deuxième les billets contenant les grandes femelles, tant pièces d'Inde que vieilles aussi contremarquées, dans le troisième les jeunes nègres et négresses de 3 pour 2 et 2 tiers. Dans le quatrième, les négrillons, mâles et femelles, de 2 pour 1. Les 268 ont été vendus 718 750 livres de sucre. Comme les 100 livres de sucre valaient alors environ 4 livres d'argent, nous obtenons le prix moyen de 107 livres par tête. Clarisse, ils ont fouillé dans tous les trous de mon corps, jusque dans le fondement, m'ont récuré bien propre. Faut faire envie et pas pitié. Et redressez-vous, faut que les chalands voient avec leurs deux yeux que vous êtes des mecs vaillants et bien portants. Et faites pas vos mauvaises mines. Ils me regardaient, ils me tournaient autour et dans leurs yeux, je n'étais qu'une bête sans âme ni sentiment. Dans leurs yeux, ils me voyaient déjà servir leur canne, ils me voyaient sans me voir, m'imaginant en d'autres lieux, à la tâche. Ils mesuraient mes bras et mes jambes et mes hanches et comptaient leurs sous en même temps que les négrillons qui sortiraient de mon ventre. J'ai été vendue à un monsieur de C qui avait une grande plantation et une sucrerie réputée dans le nord du pays. Après 2 ans, il m'a revendu à un monsieur de G qui m'a placé à l'atelier. Quand il est mort, ses héritiers m'ont revendu avec mes enfants à une madame de J qui m'a remise à couper et à marrer les cannes. J'ai porté 8 enfants, 3 sont morts avant l'âge d'un an. Les autres ont été vendus, je ne sais plus de quel côté. Parfois, aux Antilles françaises, le souvenir de ce temps-là est presque palpable et ramifié dans ce nouveau siècle et les vieilles plaies, jamais bien suturées, démangent brutalement et suppurent à nouveau. En général, si l'Antillais d'aujourd'hui ignore et repousse cette histoire-là, s'il méconnaît trop souvent les grandes lignes de cette sidérante comptabilité, de ce négoce bien huilé, le passé remonte en lui à l'occasion de conflits sociaux, familiaux, tellement insupportable et chargé, soudain comme une pierre dans la gorge. Il se souvient de l'injustice, du mépris, de la colère muselée, de la parole volée, de la négation de son humanité. Des lambeaux de mémoire flottent quelque part dans son esprit, des mots hachés ronronnent une vieille complainte. Arraché à l'oubli, il devine des bribes d'images, il se souvient confusément de la traversée, du marché, du fouet. Les Antillais ont la réputation bien ancrée d'être des danseurs, des jouisseurs, des nonchalants, même des feignants, des assistés, des bons vivants, des fêtards, la joie de vivre de la compagnie créole. Tous ces masques de carnaval pour faire bonne figure, tous ces comportements apparentés aux stratégies ancestrales pour survivre, résister, exister. Écouter, se souvenir. Les abois d'une femme en Gésine, donner la vie sur le bateau et puis aux îles, enfanter. Pourquoi ? Procréer, pour augmenter le cheptel du maître, pour enrichir encore le maître, pour donner des bras à ses champs de canne, pour fabriquer de nouvelles machines humaines destinées à l'habitation, à l'usine, à la sucrerie, à la distillerie. Les colons se plaignent régulièrement de manquer de nègres. En 1764, Fénelon, gouverneur de la Martinique, écrit au ministre. Un de mes étonnements a toujours été, dit-il, que la population de cette espèce n'ait pas produit depuis que les colonies sont fondées, non pas de quoi se passer absolument des envois de la côte d'Afrique, mais au moins de quoi former un fonds dont la reproduction continuelle n'exposerait pas à être toujours à la merci de ces envois. Le même Fénelon tente de répertorier les causes du peu de développement de la population captive. Mauvaise nourriture, excès de travail imposé aux négresses enceintes, maladie des négrillons et négrites. Et il constate que les religieux, traitant assez bien leurs nègres, n'ont presque pas besoin d'en acheter et sont même en état de vendre leur production. La vie des femmes et des enfants aux îles, tout comme celle des hommes. Une vie tellement inquiète, tellement fragile et précaire, tellement peu d'horizon. Des lendemains tellement sombres et incertains, usés. Ils ne vivent pas longtemps. Ils ne se reproduisent pas tant que ça, même si on les dit promptes à copuler. Certains historiens et statisticiens et chroniqueurs de l'époque coloniale essaient d'expliquer encore la disparition progressive des nègres. Le climat, le traitement, l'absence de la famille et peut-être aussi une loi naturelle d'après laquelle l'esclavage serait à l'homme ce qu'est la domesticité aux animaux fait pour vivre en liberté, le rendait moins apte à se reproduire. Telles sont les causes vraisemblables de ce fait incontestable. Une population esclave doit se recruter au dehors et ne peut se maintenir en général par elle-même. Qu'est-ce qu'être mère au temps de l'esclavage ? Dans son ouvrage consacré aux esclaves des Antilles françaises et publié en 1974, Gabrielle Debien revient sur les tortures infligées aux femmes pour en faire des reproductrices, colliers de fer hérissés de longues branches, carcans de fer nabots, chaînes, poupons de bois à figures humaines. Les femmes sont régulièrement accusées d'infanticide. En effet, elles étranglaient leurs enfants avec le cordon ombilical, les étouffaient, les noyaient, elles leur fracassaient le crâne, elles les empoisonnaient. Aussi, elles mangeaient de la terre. Pourquoi ? Pour soustraire leurs petits à l'esclavage, pour leur épargner cette vie de servitude par désespoir. Devaux, dans son ouvrage, explique « Le cas le plus fréquent de mortalité infantile était connu sous le nom de mal de mâchoire et assimilé aujourd'hui au tétanos des nourrissons. De véritables épidémies fauchaient les bébés. En 1786, sur 9 naissances à la plantation Fleuriot, on constate 5 décès. À Saint-Domingue, plusieurs procès ont arraché de terribles aveux. Au cours de l'un d'eux, une esclave confesse 7 meurtres qu'elle avait inscrits chaque fois par un nœud sur une cordelette et n'avait pas peur de déclarer. C'était pour enlever ces jeunes êtres à un honteux esclavage. Je plongeais, à l'instant de leur naissance, une épingle dans leur cerveau par la fontanelle. Après 1815, la traite négrière est abolie au Congrès de Vienne. Les grandes puissances européennes tracent déjà les contours de la conquête coloniale de l'Afrique tout entière, qui verra sa concrétisation à la conférence de Berlin entre 1884 et 1885, et où seront constitués les grands empires coloniaux et l'Afrique morcelée. En effet, les nègres sont maintenant hors de prix. Si les maîtres veulent renouveler leur cheptel et continuer à s'enrichir, ils doivent soit se procurer la négraille de façon illégale, débarquer dans la clandestinité sur les côtes Caraïbes, soit favoriser la natalité sur leurs terres en améliorant les conditions de vie des esclaves et en créant de petits hôpitaux, des infirmeries. Le Code noir veut imposer des règles aux hommes et femmes de ce temps. Même si elles sont considérées comme des bestiaux, pièces d'Inde, bois d'ébène, manches de pioche, bêtes de somme, etc., qui ne peuvent être vendues qu'avec la terre et au gré des lois, les négresses restent des femmes et sont désirées par les hommes. Les femmes sont convoitées par les hommes blancs, par les hommes noirs, assujettis, propriété d'un maître ou d'une maîtresse, attachés à une habitation, ne s'appartenant en aucune manière. Dans les articles du Code noir, on évoque des mariages entre nègres, mais aussi entre gens libres et esclaves. On évoque également des baptêmes et des enterrements. On retiendra tout ce qui limite la liberté des nègres, défense de ceci et cela, de vendre au marché, de s'attrouper le jour ou la nuit, de ne rien posséder qui ne soit leur maître. On gardera en mémoire que les maîtres seront tenus de fournir nourriture, habits, soins à leurs esclaves. Je voudrais surtout citer les articles 12 et 13 qui statuent sur la place des enfants, la place du père et surtout celle de la mère qui semble d'emblée centrale et positionne la femme créole comme poteau mitant de la famille. Article 12, les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront au maître des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Article 13, voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. L'homme est un étalon, un géniteur. De toute façon, à aucun moment, il ne peut s'autoriser à dire « ma femme, mes enfants, il ne possède rien que sa semence, il ne se possède même pas, il est une pièce d'Inde, il est nié dans son humanité ». Après l'abolition de 1848, il lui faudra trouver sa place dans la case auprès de la femme et des enfants. Quant à la femme, elle est tenue de procréer pour le bien de monsieur le maître. Elle est abusée sexuellement par les commandeurs. On dit des nègres et des négresses qui sont de mœurs légères. En 1831, de la Charrière, délégué de la Guadeloupe, constate dans ses observations sur les Antilles françaises que les hommes aiment à rôder la nuit comme les hyènes de l'Afrique. Ils entretiennent autant de femmes qu'ils le peuvent. Elles demeurent souvent à plus de 2 lieues les unes des autres. Figurez-vous un nègre qui, le soir, après avoir fini son travail, au lieu de se coucher de bonne heure comme nos paysans, fait 2 ou 3 lieues, souvent à travers des précipices ou des chemins affreux pour aller visiter une de ses maîtresses. Des administrateurs aussi se plaignent de l'extraordinaire prostitution qui règne parmi les négresses et du peu de soins qu'on a eu jusqu'à présent de l'empêcher. Cette prostitution empêche les femmes de devenir grosses. Et Sa Majesté veut que nous appliquions à faire les règlements nécessaires et que nous portions autant que faire se pourra les nègres et les négresses à se marier entre eux. Aux alentours de 1840, la proportion des mariages aux unions libres est de 1 sur 6887 à la Guadeloupe et 1 sur 5577 à la Martinique. Se marier pourquoi ? Pour quelle mascarade ? Pour quelle bondieuserie ? Quand le quotidien est un calvaire, un combat, le travail des femmes sur les habitations. Il y a d'une part les négresses de houx, d'ateliers, de sucreries, les femmes esclaves du jardin qui exécutent de la préparation du sol à la récolte tous les gestes exigés pour la culture de la canne, du carême à l'hivernage. Elles sarclent courbées sur la terre ou bien elles avancent de front dans la cannée pendant la roulaison. Elles amarrent les cannes, le claquement du fouet, où la cloche annonce chaque matin la répétition des mêmes misères, le retour mécanique des mêmes gestes. Quand on leur accorde un lopin de terre à cultiver, elles plantent le jardin créole pour nourrir leurs enfants. Il y a celles qui sont servantes, nourrices ou ménagères, Honorine. Je ne peux pas dire que j'ai eu un papa. Je l'ai peut-être vu 5 fois dans toute ma vie. Il était d'une autre habitation. Il y avait ma mère, la grande Eunice, qui terrorisait les négrillonnes de la maison et leur promettait tous les 4 matins de les renvoyer dans les bras des champs de canne, là où les maîtres, les nègres et les contremaîtres et les commandeurs sont des loups qui attendent que la chair fraîche et la peau douce des servantes de la maison. La peau douce, et pas de cale aux mains, et pas de cornes aux talons, et pas des dents rongées par le sucre des cannes, et des cheveux bien domestiqués, tenus dans les dents de peigne en écaille, des rêves de femmes qui, à force de marcher dans l'ombre des maîtresses blanches, finissaient par sentir le même parfum, parler le même langage et composer les mêmes gestes. Fallait que tout soit parfait pour le service de monsieur et madame. Fallait pas faire une seule faute, parce que ma mère, Eunice, était la seule à prendre les remontrances. Elle les avalait sans un mot, la tête baissée. Mais quand elle revenait à la cuisine, elle nous jetait toute sa colère et parfois nous donnait des coups. Ma mère, la grande Eunice, est morte dans un jour de colère, au milieu d'un cri, pour une petite cuillère de l'argenterie de madame qui avait terni. Une petite cuillère que madame avait déposée d'un air dégoûté au bord de la table, sur la nappe de dentelle blanche à mi-donnée. Et ma maman, la grande Eunice, l'avait juste ramassée, tête baissée. Et sitôt arrivée à la cuisine, toute sa colère gonflée s'était abattue sur Mérani, celle qui faisait que ça de ses journées, briller les cuivres et l'argenterie, nettoyer les vitres, lustrer les meubles, frotter et cirer les parquets. Elle est partie comme ça, la grande Eunice, pour une petite cuillère. Longtemps j'ai rêvé ces femmes d'autrefois, dans leur résistance quotidienne, dans l'usure des jours, dans les rires arrachés à la servitude, dans l'injouissance volée, dans la tendresse rude, dans l'espérance des lendemains. Je veux parler des sévices et des châtiments. Ils durèrent jusqu'à la veille de l'abolition. Sévices corporels, séquestrations, coups de fouet, supplices des 4 piquets, de la pimentade, écartèlement, mutilation, viol, mise au fer pour des temps déterminés, parfois jusqu'à la mort, coups de pied, coups de poing, coups de bâton, coups de sabre, humiliation, pendaison, traitement barbare, flagellation, enchaînement, geôle, cachot et le citron frotté sur les plaies, torture. la rigoise, la brimbale, le masque de fer, les cèpes, la boise, la barre. Il touchait tous les esclaves, hommes, femmes et enfants. Le fouet, écrit Schœlcher, était une partie intégrante du régime colonial. Le fouet en est l'agent principal, le fouet en est l'âme, le fouet est la cloche des habitations. Il annonce le moment du réveil et celui de la retraite. Il marque l'heure de la tâche, le fouet encore marque l'heure du repos. Et c'est au son du fouet qui punit les coupables qu'on rassemble, soir et matin, le peuple d'une habitation pour la prière. Le jour de la mort est le seul où le nègre goûte l'oubli de la vie sans le réveil du fouet. Le fouet, en un mot, est l'expression du travail aux Antilles. Il y aurait tellement d'histoires à raconter, aussi à écrire pour dire la cruauté, la perversité de l'être humain, pour dire les dangers du pouvoir, pour quémander toujours une forme de vigilance vis-à-vis de nous-mêmes. Audience du 18 décembre 1845. Les faits reprochés à Octave de Jam sont notamment d'avoir infligé à Rosette, enceinte, des coups de fouet, la tenant étendue par terre, les mains liées derrière le dos, le corps mis à nu, exposé à l'ardeur du soleil, coups qui ont occasionné des lésions de l'épiderme avec effusion de sang, et d'avoir fait imprégner les blessures saignantes de citron et piment, et contraint Rosette à retourner en ville, malgré ses souffrances et la distance d'une heure et demie de route, d'avoir quelques jours après renouvelé le même châtiment, parce que Rosette n'était pas remontée assez tôt de la ville où elle avait été envoyée vendre du charbon. Mais il y a tant d'êtres humains, encore aujourd'hui livrés à la férocité de maîtres et de maîtresses sur tous les continents, silencieux, effacés, invisibles. Que faire aujourd'hui pour combattre cette abomination? L'année même de l'abolition en Martinique, tandis que le système esclavagiste est de plus en plus contesté en France métropolitaine, les propriétaires d'esclaves n'en finissent plus d'argumenter. D'ailleurs, il y a parmi eux de nombreuses femmes, demoiselles respectables et même d'anciennes esclaves affranchies. Un certain frère Marcelin plaide en leur faveur. Il y a ici, dit-il, un grand nombre de petits propriétaires d'esclaves qui n'ont pas pour toute existence que le loyer de 2 ou 3 bons esclaves qui payent à leur maître de 15 à 40 francs par mois. Et parmi ces maîtres, il y a des blancs déjà avancés en âge et surtout des femmes qui n'ont aucune espèce d'industrie et qui, par le moyen de 2 ou 3 loyers d'esclaves, vivent fort honorablement. S'il n'y a point d'indemnité, que deviendront toutes ces personnes-là? Mais en France, de l'autre côté de la mer, d'autres femmes se sont déjà manifestées en faveur de l'abolition. Olympe de Gouges, par exemple, dès 1788, elle publie ses réflexions sur les hommes nègres, ce qui lui ouvre la porte de la Société des Amis des Noirs. D'autres femmes françaises, nombreuses, signent des pétitions en faveur de l'abolition des esclaves. De quelle manière sortir de l'esclavage encore? Hier, par le marronnage, la folie, le suicide, par ses enfants mulâtres aussi, gagner son affranchissement, se racheter, sauver sa descendance par le blanchiment progressif et patient, génération après génération, jusqu'à passer la ligne, pochapper, s'éloigner du nègre comme d'un grand Satan, transmettre au sien la haine de soi, de cette peau noire, des cheveux grainés, des nez épatés, la honte de soi, la négation de soi, de sa propre culture, le mépris des rites de la langue créole, se perdre dans l'imitation de l'autre, se diluer. Aujourd'hui, que faire? C'est se souvenir, songer aussi à extraire ces millions d'êtres humains de l'asservissement, c'est partager nos connaissances de la grande histoire, c'est réhabiliter ces millions d'humains, de femmes, d'hommes réduits à la condition d'esclaves sur notre terre aujourd'hui. Il me faut maintenant conclure, vous présenter simplement 2 ou 3 figures de femmes des Antilles qui racontent avec leur ventre, avec leurs enfants et leurs rêves. Théophée, l'esclave en marronnage de Sanvier des Poussières. Auparavant, elle en avait porté 6 petits nègres, tous propriétés de son maître. Elle leur avait donné son lait, les avait vus forcir et puis le cœur déchiré. Elle les avait regardés partir, vendus l'un après l'autre parmi ses maîtres qui n'aiment pas que ces nègres se prennent à imaginer qu'ils peuvent disposer d'eux-mêmes et des fruits de leurs entrailles. Théophée est déjà une vieille femme d'au moins 38 ans lorsqu'elle arrive à la Ravine Claire. Et c'est presque un miracle, à son âge, elle est enceinte de son 7e enfant. Et celui-là, Seigneur, elle ne veut pas que Messier le maître le ravisse. Celui-là, elle craint qu'il soit le dernier enfant qu'elle puisse mettre au monde. Celui-là, mon Dieu, elle veut le garder pour elle, toute seule, pour la joie de son cœur. Elle veut qu'il naisse libre. Solitude, la mulâtresse. J'ai vu Delgrès mettre le feu au tonneau de poudre. J'ai vu luire les yeux de 300 nègres dans les flammes de notre liberté, mais je ne suis pas morte avec eux. On m'a relevée d'entre les cadavres, du sang sur tout le corps, d'entre la chair éclatée, les bras en morceaux, les cervelles déchiquetées. Et ce n'était pas juste que je sois vivante ce 28 mai 1802. Les autres survivants ont fini sur la potence du morne Constantin. Moi, à cause de mon ventre, ils m'ont donné un crédit de vie. J'avais tout juste 30 ans. On a reporté ma mort au lendemain de mon accouchement parce que mon petit, jusque dans mon ventre, était la propriété de celui qui se nommait mon maître. Et puis la voix de Gina, aujourd'hui, promet que tu seras le plus gentil de tous mes bébés, chuchota Gina. Et moi, en retour, je te promets de m'en aller d'ici pour que tu ne te transformes pas en un petit zombie ou en esprit malfaisant. Pour que tu ne rencontres pas une balle perdue, que tu n'aies pas besoin de prendre les armes et de chercher la guerre. Oui, je te promets de quitter la Ravine Claire pour que tu trouves ton chemin dans la vie, pour que tu n'ailles pas t'égarer dans la mangrove, ou bien te faire dévorer par les lions des savanes, pour que tu finisses pas enfermé dans une petite cellule, pour que tu n'aies pas à montrer les dents à cause d'un mauvais regard, pour que tu n'aies pas besoin de fumer et boire pour voir la lumière du jour. Et je reviens à t'élumer. Simone Schwarzbach, pluie et vent sur tes lumières miracles, qui m'a tant inspirée dans mes jeunes années d'écrivaine. Je regardais longuement Amboise, songeant que si les hommes ont inventé l'amour, ils finiront bien un jour par inventer la vie. Et voici que j'allais prendre ma place, que j'allais aider ce nègre à la haler des hauts fonds, la vie, pour la faire remonter sur terre. Cependant, je lui répondis avec une froideur extrême, la voix lente et retenue. Amboise, je suis un simple bout de bois qui a déjà souffert du vent. J'ai vu les cocos secs rester accrochés à l'arbre pendant que tous les cocos verts tombaient. La vie est un quartier de moutons suspendu à une branche. Et tout le monde compte avoir un morceau de viande ou de foie, mais la plupart ne trouvent que des os. Alors, quelle issue? Bien sûr, les voies de la transmission, de l'éducation, de la recherche, puis la création peut-être de lieux de rencontres et d'échanges culturels à travers le monde. Peut-on recycler l'histoire comme on le fait de nos déchets pour sauver la planète ensemble, tous responsables de nous-mêmes? Oui, ramasser toutes nos histoires et les transformer en œuvres d'art, écrire, peindre, composer, sculpter, réaliser, réinventer à l'infini, et puis donner à voir et entendre, partager nos œuvres d'art comme ici, au musée du Quai Branly, où dialoguent les cultures. Je vous remercie.
Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Merci pour ce... Ça ressemble à votre prochain livre. Non, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais vous demander... au début, vous avez... J'hésite à vous demander pardon. Je me dis non, vu votre parcours, vous êtes mentalement très forte pour que ma question ne vous pose problème. Parce que la question est personnelle à vous pour ce que vous avez évoqué en commençant. Votre aïeul a épousé votre aïeul avec eux à la fin, quelques jours avant de mourir, comme ça. Ça peut paraître un détail ou simple aujourd'hui dans la tragédie infinie que vous avez exposée ce soir. Mais si on le met dans le contexte, c'est énorme. Parce que c'était plutôt très rare. J'ai un exemple en tête, c'est Dumas. son père Normand a revendu sa maman après qu'elle y fit 4 enfants. Elle a revendu. Votre aïeul a fait ça pour s'en attraper quelque part devant le dieu blanc, ou il a fait ça pour parce qu'il savait qu'il allait mourir, ou je ne sais pas, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui, vous, je ne sais pas, je suppose que vous avez essayé de savoir pourquoi, puisque vous êtes rentré pour savoir un peu d'où vous venez. Et c'est vraiment merveilleux que vous ayez essayé. C'est dommage que beaucoup de vos frères et sœurs du pays, là-bas, aux îles, ne fasse pas ce que vous avez fait. Merci.
En 2010, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mes 4 femmes » et qui revient sur le destin et le parcours de mon ancêtre, Angélique, effectivement, qui, 10 jours avant la mort de son maître, est devenue Madame Pinault. Alors, je ne connais pas les motivations de ce monsieur Pinault. J'ai longuement cherché aux archives départementales de la Guadeloupe. Et effectivement, 10 jours avant de mourir, ce monsieur, je l'imagine, sur un brancard, un vieux monsieur avec cette esclave, et il va l'épouser. Il lui a légué tous ses biens. Il lui a légué des terres à la Trois-Rivières, il lui a légué des terres aux Saintes. Il voulait sans doute la mettre à l'abri. Et ma famille, le nom, ce nom Pinault-là, ce nom que je porte, voilà, c'est un nom qui est arrivé avant l'abolition de l'esclavage. C'est un nom qui n'est pas un nom fabriqué au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Mais j'ai rêvé. Vous savez, je suis un écrivain et je me pose à ma table de travail et j'attends que les personnages viennent m'inspirer, me visiter, me souffler aussi peut-être leurs histoires. Je ne sais pas. Quand j'ai écrit « Mes 4 femmes », je me sentais réellement très, très proche de cet ancêtre-là, comme si j'avais dépassé, je l'avais rencontré par-delà les temps. Je l'avais retrouvé et tout est subjectif, hein, mais j'ai l'impression que j'ai été fidèle à ce qu'elle a vécu. Et dans ce livre, Les 4 femmes, qui est une manière pour moi de me présenter au monde, hein, puisque ce livre part de 4 femmes qui constituent pour moi comme une fiche. Voilà, mon identité qui me pose dans ce monde, puisqu'il y a Angélique qui m'a donné ce nom, Pinault, m'a transmis ce nom, Pinault. Et puis, il y a une tante, je porte le prénom d'une femme, Gisèle, une grande tante qui s'est laissée mourir de chagrin. Et ma mère m'a donné ce nom, ce prénom en souvenir de cette femme. Et puis, il y a ma grand-mère Julia que j'évoque largement dans d'autres livres. Et enfin, ma mère. Et chacune de ces femmes évolue dans un temps de la Guadeloupe. Et en même temps, ces petites histoires que toutes ces femmes vont vivre sont aussi importantes que la grande histoire qui va les broyer, puisque Angélique va vivre dans cette période de l'esclavage, même si en 1837, elle devient Madame Pinault. Mais on retrouve également la première guerre mondiale avec mon grand-père qui est enrôlé de force et qui va combattre dans les Dardanelles et qui revient, d'ailleurs on dit qu'il revient fou avec une balle logée dans le cerveau, et il y a mon père qui va lui s'engager et répondre à l'appel du général de Gaulle. Il y a là toujours la grande histoire. Moi je crois que peut-être parce que je suis la fille d'un militaire de carrière, j'appréhende cette grande histoire. Je vois toujours de la guerre. Je vois toujours la guerre. Nous vivons toujours dans la guerre, toujours la guerre. Et les hommes partent à la guerre et les hommes se font la guerre. Alors moi, j'écris pour me souvenir. Vous l'avez bien entendu, je l'ai répété à maintes reprises. J'écris pour me souvenir, pour rencontrer les autres, pour jeter réellement des ponts et dire, voilà, donner un sens à cette existence. Tout simplement. Alors, je ne sais pas, tout ce que je veux faire
quand je vous ai, quand j'ai donné la parole, vous avez entendu les voix de ces femmes. Je veux donner de l'humanité à des gens. Vous savez, j'ai écrit le livre « Femmes des Antilles » en 1998 parce que je me disais qu'on allait parler des esclaves et de l'esclavage. Mais est-ce qu'on allait prendre vraiment la dimension de la souffrance? Est-ce qu'on allait voir ces êtres de chair et de sang? Est-ce qu'on allait voir ces humains? C'était important pour moi de donner une humanité à ces personnes. C'était pas simplement des esclaves, c'est des êtres humains réduits, réifiés, chosifiés, transformés en instruments. Et c'est aujourd'hui sur... C'est un combat, vous savez. Je ne sais pas si vous avez connaissance du livre de Jean-Robert Cadet, qui a créé une fondation, qui est haïtien, et qui raconte dans un livre qui s'appelle « Reste avec » sa condition d'enfant esclave. Il a maintenant 50 ans, mais il a été enfant esclave. Et sa maîtresse, qui était une haïtienne, elle le traitait de vraiment... C'était très, très, des coups, beaucoup, beaucoup de violence. Alors voilà, je parle aujourd'hui, j'ai accepté de donner cette conférence aujourd'hui. Je ne suis pas une conférencière, je suis un écrivain, une écrivaine, si vous voulez. C'est parler d'hier, parler de mon histoire, partager surtout cette histoire pour rencontrer. Pour partager, pour aller vers les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonsoir, je suis vraiment ravi de vous rencontrer ce soir, parce que vous êtes mon écrivaine préférée, j'ai tous vos livres.
Merci.
Excusez-moi. Donc moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir justement comment vous avez fait pour évoluer avec toute cette histoire, en fait, qui est la vôtre dans cette France qu'on a aujourd'hui. Et comment, nous, jeunes, aujourd'hui, avec ce passé qu'on a, cette histoire qui est la nôtre, pouvons-nous justement évoluer dans ce contexte-là? En tout cas, moi, je prends mon exemple où le quotidien, il est ce qu'il est, il n'est pas facile, il y a des mauvais moments. Mais voilà, on essaie quand même d'avancer. Je voulais savoir, vous, par rapport justement à cette enfance que vous avez eue, cet aïeul qui était le maître, cette grand-mère qui était l'esclave, comment vous avez construit votre parcours pour arriver à cette femme que vous êtes aujourd'hui?
On va rester là encore 2 ou 3 heures. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je suis fille de militaire de carrière. Mon père s'est engagé dans les forces françaises libres au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors, à l'issue de la guerre, il est resté dans l'armée. Et je suis née à Paris avec mes frères et sœurs. Nous sommes nés dans la région parisienne. Il a fallu se construire avec le racisme dans une cité de la banlieue parisienne. Moi, je me suis... consolée avec l'écriture, parce que j'étais très, très sensible au racisme. Et très vite, j'ai écrit des romans, j'ai écrit des histoires. Je n'ai pas commencé par la poésie. Et c'est pour cette raison que je termine ma conférence en disant la création, parce que créer, exprimer ce que l'on ressent, ce n'est pas toujours facile. Exprimer ses idées, ce n'est pas vraiment facile. Mais par la création, par des œuvres d'art, on peut aller rencontrer les autres et toucher surtout les autres. Donc, moi, j'ai voulu toucher les autres avec des livres, avec des mots. Je ne sais pas peindre, mais les couleurs, pour moi, c'était les mots et les histoires. Et faire l'effort d'aller au bout de tout ce qu'on veut exprimer en cherchant le mot juste, le mot tout à fait adapté, et la langue française, elle était là à ma disposition. Donc j'ai écrit des romans. À 10 ans, j'ai écrit un petit roman Voilà, que, alors je vais vous dire que j'avais un frère, un jeune frère qui lui dessinait très bien. Il a arrêté de dessiner, mais bon, moi j'ai continué à écrire. Et il m'avait fait la couverture de mon petit roman. J'avais recopié ce roman une dizaine de fois. Et mon petit frère était allé vendre le roman aux enfants de la cité. Je raconte souvent cette anecdote. C'est à 10 ans, et il avait vendu, j'avais fixé le prix parce que je savais que ça avait une valeur quand même, à 30 centimes. Donc mon frère a réussi à en vendre trois petits livres. Et en fait, aujourd'hui encore, tout ce que j'écris, c'est pour aller vers les autres, pour rencontrer les autres, réellement. Alors c'est mon chemin. Ce n'est pas un chemin facile parce que je me suis beaucoup, beaucoup consolée avec l'écriture, énormément consolée. Et vous savez, quand vous vivez dans un environnement assez hostile, il y avait énormément de racisme. Je raconte, vous connaissez mes livres, je raconte dans L'Exil selon Julia, comment j'avais un professeur qui me mettait sous son bureau. Et à l'époque, c'était les bureaux qui avaient un panneau devant. Donc, elle ne voulait pas voir ma tête de négresse. Donc, elle me faisait rentrer sous son bureau. Et moi, j'acceptais. Et en fait, c'est mai 68 qui m'a sauvée, puisque l'école était terminée. Mais j'ai vécu ce que l'on peut appeler la honte de la victime. C'est la victime qui a honte, au lieu que ce soit le bourreau qui a honte, c'est la victime qui se tait, qui ne dit rien et qui a honte. Et tous les enfants qui étaient dans la classe avec moi étaient là et ne disaient rien, ne se révoltaient pas. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut pas exister, j'espère. Mais c'est mon vécu. C'est une solitude immense. Et donc l'écriture, parce que sinon, il n'y a plus rien à faire, c'est la mort. Donc l'écriture m'a vraiment sauvée. Et voilà, j'ai écrit plus de 25 livres aujourd'hui. Je ne cesse pas d'écrire. C'est très, très important pour moi d'écrire, de toujours aller creuser ce même sillon. Et puis, c'est un bonheur aussi de rencontrer, puisque finalement, grâce à mes livres, je voyage dans le monde entier, mes livres sont traduits et je rencontre le monde grâce à mes ouvrages. Alors, c'est pour un jeune comme vous, c'est vous dire que vous êtes un individu qui a une identité, votre identité. Vous êtes peut-être issu de parents qui sont nés ailleurs, peu importe. Et c'est Édouard Glissant qui m'avait, une fois je l'avais interrogé, je lui avais dit, mais Édouard, qu'est-ce que je peux dire à tous les gens qui me disent, ouais, mais toi, t'es pas une vraie Guadeloupéenne, t'es pas une vraie Antillaise. Il me dit, mais tu les envoies balader, tu es riche de toutes ces histoires, tes parents t'ont légué des choses, voilà, les voyages, la guerre, tout, tu prends tout et tu grandis avec ça et tu le partages avec le reste du monde. Donc c'était une libération pour moi parce que je me retrouvais rejetée par les Blancs. En France, c'était vraiment le racisme. Et puis quand je suis arrivée en Martinique en 1970, j'avais 14 ans, et on me traitait de négropolitaine, et je ne maîtrisais pas non plus très bien la langue créole. Donc toujours un peu en décalage, jamais à sa place. Et en fait, Édouard Glissant m'a dit, non, tu as ton histoire, tu as ton identité, et c'est une richesse au contraire. D'être d'ici et d'ailleurs, et c'est ton histoire et personne ne peut te la voler, personne ne peut t'imposer d'entrer dans un moule aussi. Donc soyons fiers de ce que l'on est et puis partageons ce que l'on est, partageons nos expériences et voilà, moi je suis très curieuse des autres cultures. C'est peut-être ça que j'ai conservé, une vraie curiosité pour aussi bien la cuisine que les autres cultures. Et j'aime beaucoup, beaucoup voyager à travers le monde, même si c'est de plus en plus difficile. Oui ?
Madame, j'ai beaucoup aimé le texte que vous avez lu, que vous nous avez communiqué, et j'aurais beaucoup, beaucoup aimé en avoir une copie.
Mais je pense que ça va être enregistré sur le site du musée du Quai Branly, et donc ça sera disponible.
C'est très bien.
J'ai aussi vu comment tu étais intervenu dans les prisons et dans les hôpitaux en Guadeloupe, et j'aurais aimé que tu dises pourquoi tu as choisi de travailler comme infirmière en psychiatrie pendant tant d'années.
Pendant
C'est un autre aspect
ans.
De ton identité.
Est-ce qu'il y a un hasard? Est-ce qu'il y a un hasard? Est-ce qu'il y a des hasards? Moi, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je me destinais au professorat. Je voulais être professeur de lettres. Malheureusement, je suis arrivée sur les bancs de l'université et en fait, il y avait du latin, ça ne m'intéressait pas. Moi, tout ce que j'aimais, c'était lire et écrire. Lire des histoires, écrire des histoires. Alors, j'ai très vite séché les bancs de l'université et un jour, je me suis retrouvée avec un ami, je le raconte dans un autre de mes livres qui s'appelle « Folie, elle est simple » puisque c'est le monde de la psychiatrie. J'ai suivi un ami qui allait passer le concours d'entrée à l'école d'infirmiers et j'ai réussi au concours d'entrée, mais sans aucune préparation puisqu'il c'était juste un oral. Et je suis devenue infirmière. Pourquoi je suis restée, Jeanne? C'est ça la question, en fait, parce que c'est un milieu très, très dur, en fait, la maladie mentale. Mais je crois que je suis restée parce que j'ai une fraternité, une parenté avec ces personnes qui sont en souffrance mentale. Ce sont des gens qui sont exclus, qui sont rejetés, qui sont différents. J'ai vécu tellement de temps toujours dans cette différence qui était pointée du doigt. Ce sont des gens qui ne sont pas compris, qui ne sont pas acceptés comme ils sont. Alors voilà, je peux écouter. C'est une de mes qualités, hein, on me le dit souvent. Je peux écouter et écouter la souffrance et comprendre qu'il y a de la douleur, même quand il n'y a pas, en tant qu'infirmière, il n'y a pas de plaie béante, de jambes cassées. Sentir, percevoir cela et puis soulager. Et parfois, vous savez, dans ces milieux-là, un sourire peut suffire à aider quelqu'un. C'est très difficile pour les gens qui vivent la maladie mentale, c'est leur condition. Les familles sont bien souvent confrontées à une situation difficile, un enfant qui est schizophrène, psychotique, mais être soi-même dans cette maladie-là, retenue, être soi-même confronté aux hallucinations, être vraiment vivre dans un monde parallèle, parce que vous savez, la psychose, c'est ça, c'est percevoir la réalité autrement. Alors, ce n'est pas facile. Il y a des êtres humains qui sont dans la maladie. Alors moi, je vais dans les prisons, c'est vrai, je vais rencontrer ceux qui sont exclus, parce que voilà, je me suis sentie si longtemps exclue et différente. Et voilà, je suis... Tu sais, Jeanne, mon seul pays, ma seule terre, c'est mes romans. C'est ma liberté, c'est ma joie. Je suis dans un état de jubilation parfois quand j'écris, parce que les mots viennent, les mots se mettent les uns à côté des autres. C'est tellement magique. C'est un métier qui donne beaucoup de joie.
Gisèle, merci beaucoup.
Merci
pour ces très beaux textes que vous nous avez offerts ce soir. On pourrait rester à vous écouter encore plusieurs heures, effectivement, mais il faut qu'on libère la salle. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.